Nous poursuivons l'étude des sujets qui concernent l'éthique, et tout spécialement tels que les philosophes ont travaillé les questions. Nous avons abordé la fois dernière le sujet de la liberté. Nous avons entamé un survol historique. Et aujourd'hui, je compte quand même que nous achevions notre circuit sur ce sujet-là, même si notre temps se trouve réduit. Aujourd'hui, il n'est pas question de dépasser l'heure. Il faudra vraiment que nous en tenions à midi et quart, comme l'extrême limite. Mais nous devrions arriver quand même à faire quelque chose de profitable entre nous et dans la présence du Seigneur. Je lirai un passage du Nouveau Testament en introduction. Nous prierons encore brièvement. Et ensuite, donc, je résumerai très brièvement ce que j'ai dit la fois dernière, parce que ça remonte déjà à 2 mois, et je vous apporterai donc quelques autres éléments pour votre réflexion. Donc, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 8, je voudrais lire les versets 31 à 38, qui ont joué pour moi, personnellement, un grand rôle dans la réflexion sur la liberté. Je vous le confesse, c'est ce que j'ai cru comprendre de ces versets qui a été assez déterminant tout au long de mon travail de théologien. Donc, je lis en traduisant un peu littéralement, mot à mot, si, pour que vous voyez, en comparant avec la version que vous avez sous les yeux éventuellement, ce qui se trouve vraiment dans le texte. Jésus dit donc à ceux qui avaient mis en lui leur foi, juifs, « Si vous demeurez dans la parole qui est mienne, dans la parole mienne, vous êtes vraiment mes disciples. » Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous libérera, vous affranchira, toutes des expressions qui sont synonymes en français et qui peuvent traduire donc le verbe de l'original. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et personne ne nous a jamais réduits en esclavage. Comment donc, dis-tu, que vous deviendrez libres? Deux points sur ces quelques versets déjà. L'expression qui avait mis leur foi, qui avait cru, mais c'est un temps qui montre que c'est quelque chose de stable et de ferme, c'est parfait, nous étonne un peu quand nous voyons la réaction de ces gens-là qui ne sont pas du tout contents de ce que Jésus vient de dire, qui ont une attitude de rébellion et de contestation par rapport à lui. Je crois qu'il faut enregistrer que dans l'évangile de Jean en particulier, la foi que manifestent les hommes devant le Seigneur n'est pas toujours considérée comme une foi authentique. Il y a des simulacres de foi, des démarches de foi superficielles qui en ont l'allure, mais qui ne sont pas la foi authentique. Parfois, peut-être peut-on dire que c'est une première démarche, qui n'est pas entièrement négative en elle-même, mais ce n'est pas encore la foi décisive, déterminante. Même quand le même temps du verbe est employé que nous avons ici. Je crois qu'il faut noter, déjà au début de l'Évangile, il est question de Juifs qui croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux. Le verset le précise. Ils avaient une confiance que Jésus jugeait finalement, trop superficiel ou encombré de superstitions, d'idées fausses à son propos. Donc, je crois que nous pouvons comprendre qu'il s'agit de Juifs qui ont été au moins impressionnés par l'enseignement de Jésus, qui se disposent superficiellement au moins favorablement à son égard, mais qui ont gardé leur prétention à être eux-mêmes et à ne pas se laisser enseigner de façon radicale par Jésus. Je pense que c'est ce qui nous permet de comprendre cela. Et alors, la deuxième remarque à propos de ces versets que nous venons de lire, c'est que c'est la réaction commune des êtres humains de prétendre qu'ils sont libres. Nous sommes libres. Comment peux-tu dire vous serez libres si vous demeurez dans ma parole. Les êtres humains ont assez souvent cette tendance au moins à prétendre être libres. Dans le cas de représentants du peuple juif, c'est quand même assez paradoxal qu'ils disent « Personne jamais ne nous a réduit en esclavage », alors que tout l'Ancien Testament est rempli de cas où ils ont été réduits en esclavage, à commencer bien sûr par l'esclavage en Égypte. Et au moment où ils disent ça, ils sont quand même sous la botte romaine. Donc voilà, c'est très significatif, cette prétention qu'expriment les êtres humains, car rappelons-nous toujours que les Juifs sont dans toute l'Écriture le miroir de l'humanité. Les rapports de Dieu avec le peuple juif sont en quelque sorte une représentation de ces rapports à tous les êtres humains. Les Juifs sont sa création, tous les êtres humains sont sa création. Ils se rebellent, ils ont le courage, ils refusent le joug de son autorité. C'est le cas de tous les êtres humains. Et Dieu les a choisis pour leur offrir le salut. C'est le cas de tous les êtres humains, il veut que tous les hommes soient sauvés, etc. Vous voyez, pratiquement, on peut étendre à toute l'humanité tout ce qui est propre au peuple juif, selon son élection particulière, dans le reste de la Bible. Alors, quand nous voyons quelque chose de négatif, comme ici, la réaction de ces Juifs à la parole de Jésus, disons-nous bien qu'ils nous représentent en tant qu'êtres humains. Tous les êtres humains ont ce type de réaction. Alors, je continue. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous dis. » C'est une façon de parler qui était propre à Jésus. On ne connaît pas d'autres personnes qui aient usé de cette façon de parler parmi les Juifs de son temps ou d'autres époques. Au lieu de dire « Amen » à la fin, « Oui, c'est ça », Jésus, assez souvent, préfaçait ce qu'il disait par « Amen, Amen ». Ce que certaines versions traduisent par « en vérité », mais c'est ce que ça veut dire. Mais Jésus donnait de la solennité, marquait le caractère sûr et inébranlable de son enseignement, en entamant, c'est une façon de parler propre à lui, en entamant plusieurs de ses énoncés par cette formule. Alors ici, il dit « Amen, Amen, je vous dis ». Que quiconque fait le péché, et c'est un présent qui dure, celui qu'on pourrait donc traduire qui pratique le péché, est esclave du péché. Ça, c'est la réponse, la grande réponse basée sur l'expérience que chaque être humain sincère devrait quand même reconnaître juste. Nous sommes libres. Mais vous êtes libre vraiment. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et puis Jésus continue, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il ne demeure pas dans la maison à toujours. Le Fils demeure à toujours. Si donc le Fils vous libère, vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. Ce qu'on traduit réellement vient du verbe être. Il s'agit de l'être et pas de l'apparaître. Vous serez, quant à l'être véritable, donc, on peut traduire éventuellement vraiment, mais la traduction qui semble la plus proche en français, c'est réellement, d'une réalité qui s'oppose à une simple apparence, aux illusions, aux fantasmes que se créent, avec lesquels jouent les êtres humains. Alors le point qui a été pour moi très déterminant, concerne le détour que Jésus semble faire dans sa réponse. Je ne vais pas vous donner la pensée, mais j'espère le faire tout à l'heure. Je vais avoir bien le temps de le faire. Mais le détour du verset 35, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours dans la maison. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Si Jésus avait dit « Quiconque pratique le péché est esclave du péché, si donc le Fils vous affranchit, sous-entendu du péché, vous serez réellement libre », voilà, la pensée serait simple, la continuité ne poserait pas de problème. Pourquoi est-ce que Jésus fait ce détour par rester dans la maison, toujours ou pas toujours? Il me semble que ce n'est pas évident d'emblée, et que pourtant c'est le nœud de la conception biblique de la liberté. Alors, j'espère vous le dire tout à l'heure. Mais vous voyez ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et provoquant une réflexion supplémentaire dans ce verset. Alors, ayant lu le passage, nous prions ensemble encore. Prions. Nous te louons, notre Seigneur, pour la vérité de ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole. Conduis-nous toi-même par ton esprit et permets-nous d'accéder de plus en plus en vérité authentique, en réalité profonde, à la liberté que tu donnes. Toi, le Fils qui est devenu notre frère. Nous te prions aussi tout spécialement en ce jour pour que ceux qui sont esclaves et esclaves d'idées faussées, mensongères de la liberté, qui subissent l'influence des puissances des ténèbres, que tout cela puisse être libéré à leur tour et que le témoignage qui sera rendu, la réaction qui sera manifestée cet après-midi puisse y contribuer. Nous te prions pour tous ceux qui vont manifester, pour que tu les gardes, qu'il n'y ait pas de provocation, qu'il n'y ait pas de heurts violents. Nous te prions aussi pour qu'ils puissent agir dans la joie, que tes enfants, peut-être à titre individuel, puissent rendre témoignage. Nous te prions pour qu'il y ait une bénédiction qui vienne sur notre pays et en vue du salut d'un grand nombre, par le moyen même de ces événements tumultueux. Nous te recommandons, à ta grâce tout ce qui va se passer aujourd'hui et nous-mêmes maintenant, au nom même de ton œuvre pour nous, Seigneur Jésus. Amen. La dernière fois, nous avons cherché à voir comment les anciens, donc dans l'Antiquité et ensuite, avaient conçu la liberté. Nous avons vu que la notion de liberté n'est pas au tout premier rang des réflexions des philosophes de l'Antiquité gréco-romaine, bien qu'elles ne sont pas absentes, la réflexion sur ce sujet, et que ce qui prédomine, c'est une certaine dualité. D'une part, il est question de la liberté en rapport avec l'ordre du monde. L'ordre du monde, qui est l'ordre rationnel pour la plupart de ces philosophes, semble quand même souffrir quelques exceptions. Il y a comme un facteur étranger qui se mêle et auquel se rattacherait la liberté humaine, sauf pour le stoïcisme, dans la mesure où pour le stoïcisme, c'est adhérer à l'ordre du monde qui est la seule vraie liberté, la liberté réelle. Mais le stoïcisme, donc le courant philosophique qui était le plus populaire, le plus répandu, le dominant au premier siècle, à l'époque du Nouveau Testament, donc le stoïcisme n'est quand même pas tout à fait conséquent, parce que tout en disant que tout ce qui arrive, arrive selon la raison qui est divine, qui est le fond de la réalité du monde, en même temps, le stoïcisme reconnaît que, curieusement, les êtres humains peuvent dire oui ou dire non à cet ordre qui les englobe pourtant entièrement. Cela, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est le rapport de la liberté aux passions. À l'intérieur de l'être humain, les anciens éprouvent très fort. C'est un aspect au moins du problème que Jésus soulève en Jean 8, qu'il y a des tendances, qu'il y a des ébullitions qui sont difficiles à maîtriser. Et la liberté, donc, est conçue très souvent comme la maîtrise au nom de la raison des passions. Les passions doivent être rangées, en quelque sorte, limitées, modérées, gouvernées par la raison. Le thème de la liberté, qui est très important dans la Bible, le message de la libération y est très, très fort, et dans le passage que nous avons lu, intensifie la réflexion sur le sujet pendant le Moyen-Âge, où la philosophie est une sorte d'amalgame entre l'apport de l'antiquité païenne gréco-romaine et l'apport biblique. Et là, on raffine les choses, on s'interroge à divers titres sur la liberté, et entre autres, on essaie de réfléchir à la liberté d'indifférence. Est-ce que vraiment elle est concevable? Si la liberté, c'est de pouvoir faire A ou B dans la situation où on se trouve, quand les deux A et B sont strictement égaux, symétriques, est-ce que la liberté a encore un sens? C'est, je vous l'ai dit, je crois, ce qu'on appelle l'âne de Buridan, qui est mort parce qu'il était exactement à égale distance des deux bottes de foin et ne pouvait pas se décider pour l'une ou pour l'autre. Bon, bien. On peut arranger un petit peu différemment l'histoire, mais en gros, c'est ça. Donc, réflexion sur les conditions de la liberté. Le moment où le thème de la liberté alors devient tout à fait premier dans les réflexions des philosophes et, je dirais, dans la vie culturelle, c'est la Renaissance. C'est la Renaissance où ça jumelle en quelque sorte, mais bien différente, la Réforme. Au XVIe siècle, en gros, là, le thème de la liberté devient un thème clé. L'homme moderne, parce qu'on peut considérer que la modernité naît avec la Renaissance, l'homme moderne se considère d'abord comme libre. Et le schéma qui gouverne toute sa pensée, c'est le schéma de la nature et de la liberté. Il y a la nature, avec ses lois, avec son réseau de causes, et puis la liberté humaine. Alors, par rapport à l'Antiquité, non seulement il y a accentuation du thème, et il joue un rôle de plus en plus important, mais il y a un changement quant à la manière dont la nature est conçue, et du coup, mais pas seulement du coup, il y a d'autres facteurs jouent aussi, il y a une conception de la liberté qui se modifie au moins légèrement par rapport à ce que nous avons vu. Il n'y a jamais de rupture totale, hein, l'héritage est toujours là, mais il y a donc, me semble-t-il, dans cette modernité qui éclot 15e déjà essentiellement en Italie, hein, le Quattrocento, le 15e siècle, le 16e, le 17e, il y a donc ces deux nouveautés. Alors, quelles sont ces deux nouveautés? La nature n'est plus une sorte de puissance divine, diffuse, qui est une sorte de nœud de force mystérieuse. C'est encore quand même un peu comme ça qu'est la nature même des stoïciens. Ils disent la raison, mais c'est une raison qui est assez mystérieuse et une force plus qu'un calcul. Vous voyez, ce qui change, c'est la vision de la nature qui donc s'installe à la modernité avec le progrès des sciences. La nature n'est plus divine. La nature, c'est un ensemble matériel que l'homme peut dominer, qui est régi par des lois, un cercle de causes et d'effets dont l'homme va pouvoir acquérir la domination en connaissant quelle loi détermine les effets à partir des causes. C'est ce phénomène qui est un phénomène extraordinaire dans l'histoire des civilisations, hein, de la science de type moderne, qui permet cette vision nouvelle de la nature, avec une vision limite, mais qui sera très présente tout au long, la vision du déterminisme. Tout ce qui arrive obéit à ces lois, appartient à une chaîne de causes qui produit des effets, qui à leur tour sont les causes d'autres effets, etc. Et tout est pris dans cet ensemble de causalité, tout est déterminé par les lois et par les causes qui ont précédé. Et on évoque très, très souvent ce qu'on appelle le démon de Laplace. Laplace, qui était un savant de grande qualité, dit « Si, à un moment donné, je savais tout sur tous les éléments de l'univers, je pourrais prédire ce qui arrivera le moment d'après. » C'est simplement notre ignorance qui fait que nous ne pouvons pas prédire ce qui va arriver, parce que tout est déterminé par les lois. Donc si je connaissais l'ensemble des causes possibles dans un temps donné, à t plus 1, je pourrais dire exactement ce qui va arriver. C'est la vision déterministe qui continue d'avoir encore de nos jours une très grande force, parce que le succès de cette science de type moderne qui a vraiment transformé le monde et qui peut-être menace la Terre, voilà la préoccupation des écolos, a été prodigieux. La puissance que cela a donné à l'humanité, et du coup la possibilité pour l'humanité aussi de croître démographiquement, d'augmenter en nombre de façon fantastique, vous voyez, cela, ça continue encore de nos jours. Mais, ricochet, la notion de liberté, du coup, on est affecté. La liberté, que devient-elle si la nature est conçue, comme je viens de vous le dire, de cette manière déterministe? Est-ce que la liberté est dedans ou elle n'y est pas? Si elle est dedans, est-ce qu'elle n'est pas purement et simplement engloutie? Finalement, n'est plus qu'une illusion, parce que tout fonctionne selon ses lois. Et certains systèmes ont été jusqu'à dire ça. Bien que sa vision ne soit pas celle d'un déterminisme mécanique, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile d'ailleurs à appréhender. Hein. Le grand philosophe Hegel, au début du XIXe siècle, donc le grand philosophe allemand Georges Guillaume Frédéric Hegel, a pu dire que tout se passe selon la raison. Tout se déroule rationnellement. Tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Et il n'y a aucune autre réalité qui échappe à la progression de la logique de cette raison qui est l'univers. Et alors, l'impression que nous avons que nous décidons et que ça change les choses, que nous avons choisi A, mais si nous avions choisi B, les choses auraient tourné autrement. Et l'impression qu'ont en particulier les grands hommes, ceux qui ont du pouvoir, qui semblent aiguiller l'histoire de ce côté ou d'autre, c'est la ruse de la raison. Voilà l'expression qu'il a employée. Ils s'imaginent que leurs décisions changent le cours des choses, mais c'est une ruse de la raison. Ça fait partie de l'ensemble déterminé par ce devenir de la raison. En fait, c'est une illusion. C'est une ruse de sa part. Oui. Donc, vous voyez le mot allemand, List. List der Vernunft. Voilà comment il disait. Donc, c'est une position qui a existé. Plus près de nous, il y a un penseur behavioriste, l'un des grands fondateurs de la psychologie qu'on appelle behavioriste ou en français comportementaliste, qui a écrit un livre, qui s'appelle Skinner, au-delà de la liberté et de la dignité. Liberté et dignité sont finalement des conceptions creuses, parce que tout se déroule selon le déterminisme. Vous voyez ? Alors, le grand problème pour de telles positions, enfin là j'anticipe peut-être un petit peu, c'est que on ne voit pas comment quelqu'un peut s'en rendre compte. Comment quelqu'un peut faire la théorie de la chose. Si tout est pris dans ce réseau de détermination, d'où vient cette espèce de recul et de jugement, de liberté de jugement, qu'a le penseur qui nous découvre ça, qui prétend nous le montrer. Vous voyez, c'est un problème qui, je pense, n'est pas résolu par ces tendances. La tendance principale, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est là, avec les progrès de la science, qu'on s'est de plus en plus inquiété du problème que j'évoque, la tendance principale a été de traiter la liberté comme extérieure à la nature. Ce qui n'avait pas été le cas dans l'Antiquité gréco-romaine, philosophe. Il y a la nature et en face, il y a la liberté de l'homme. La liberté se conçoit par distinction de la nature. Alors, j'ai dit que c'était un des facteurs, que cette évolution de la vision de la nature. Je pense que l'autre, c'est une certaine sécularisation, transposition du message biblique. Pour la nature aussi, c'est une transposition du message biblique, car c'est dans la Bible seulement, par opposition au paganisme, que la nature n'est pas divine. Elle est créée par Dieu, mais elle n'est pas divine, c'est une simple créature, et l'homme est appelé à la dominer. Vous ne trouvez pas ça chez les païens. Ils adorent toujours la nature de quelque façon, vous voyez. Donc, c'est une transposition, mais en effaçant Dieu. De même pour la liberté, c'est une transposition surtout du fait que dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle création par la foi, nous sommes au-delà du monde, nous ne sommes plus du monde. C'est le n'être pas du monde qui caractérise l'existence chrétienne, d'après le Nouveau Testament, qu'on voit transposer avec effacement du contexte biblique, bien sûr, dans cette idée de la liberté comme extérieure à la nature, dressée comme en antithèse de la nature. Alors, c'est une contradiction, oui, c'est une contradiction, mais beaucoup de penseurs se glorifient de cette contradiction. C'est précisément ce qui caractérise la nature. Alors, on peut suivre cette évolution, ce que nous n'allons pas faire, mais je pense qu'un des penseur extrême, selon cette ligne. Il a été au bout, presque au bout. C'est Jean-Paul Sartre. Donc Jean-Paul Sartre, qui a été certainement l'un des plus doués des philosophes français, celui qui a été le plus connu du grand public, qui a vraiment joué le rôle d'inspirateur pour une ou deux générations. Il a vraiment joué un rôle très important. Il a été le philosophe de la liberté. Les romans qu'il a écrits pour communiquer d'une manière qui pouvait saisir un grand nombre ses idées philosophiques, il les a intitulés « Les chemins de la liberté ». C'est la liberté qui est là. Et j'ai dans le livre de son ami Janson sur lui, le Sartre par lui-même, une citation que je trouve très remarquable. C'est Oreste dans une des pièces, parce qu'il a aussi écrit des pièces pour communiquer sa pensée. « Je suis libre, Électre, dit Oreste. La liberté a fondu sur moi comme la foudre. Tout à coup, la liberté a fondu sur moi et m'a transi. La nature a sauté en arrière. » Il n'y a plus rien de nu au ciel, ni bien, ni mal, ni personne pour me donner des ordres. Désormais, alors là c'est le commentaire de Janson, désormais Oreste est condamné à la liberté, exilé de l'être même, car l'être c'est le bien, et la liberté n'est que non-être. Citation, hors nature, contre nature. Ce fils dénaturé s'est privé de toute excuse et n'a plus d'autre recours qu'en soi. Je ne reviendrai pas sous ta loi. Je suis condamné à n'avoir d'autre loi que la mienne. Je ne reviendrai pas à ta nature. Mille chemins y sont tracés qui conduisent vers toi, mais je ne peux suivre que mon chemin. Car je suis un homme, Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin. Nous retrouverons fréquemment par la suite ce thème de l'antiphysis. Physis, c'est le mot nature en grec. De l'antiphysis comme définition du règne humain. L'homme ne peut parvenir à lui-même qu'au prix de se conquérir sur la nature, de nier en soi toute nature, de s'affirmer sans cesse comme antinaturel. Oui. Voilà une page qui illustre ce que je vous dis de l'aboutissement extrême en Sartre, de cette opposition de la nature et de la liberté, la liberté se définissant même par son opposition à la nature et donc comme pure indétermination. Et alors, je me branche sur l'actualité d'aujourd'hui. Ce que nous avons sous les yeux ou dans les oreilles aujourd'hui, mais c'est dans la ligne de cette pensée sartrienne. Ce que refuse foncièrement la tendance qui veut promouvoir la nouvelle loi, c'est que la nature dicte aucun comportement. Hommes et femmes, ça ne doit avoir aucune importance. C'est la nature, donc je n'ai aucun ordre à recevoir de la nature. C'est la liberté conçue comme cet absolu qui nie la nature, qui s'affirme. Alors, ça avait été dit par la compagne de Sartre, hein, précisément qu'il l'a appliqué à la question des sexes, dans son livre très fameux, Le deuxième sexe. On ne naît pas femme, on le devient. Oui. C'est une disposition de la liberté humaine qui n'a que faire de la nature, qui ne reçoit aucune norme de la nature. C'est un petit détail anatomique qui n'a aucune importance. Et d'ailleurs, les tendances d'aujourd'hui vont jusqu'à dire, même si c'est une anatomie, il faut que la sécurité sociale rembourse la modification, hein, la chirurgie qui fait changer de sexe. Parce que tout dépend de la liberté humaine. Il n'y a que la liberté qui compte. Et ce qu'on appelle l'idéologie du genre correspond à cela. On refuse le mot sexe qui implique une disposition donnée par la nature, et on remplace par le mot genre pour indiquer que c'est ce que l'humanité en fait dans sa liberté. Il s'agit de la libre création et invention de soi. Alors, on veut s'inventer hétérosexuel, homosexuel, transsexuel, bisexuel, etc. Voilà, c'est ce qu'il faut promouvoir de manière systématique. J'espérais tout un temps que le mot genre ne serait pas diffusé en France avec cette signification, mais manifestement, l'idéologie a réussi à percer à cet égard, parce que en anglais, j'ai souvent exposé d'ailleurs aux amis américains, et avec une bonne écoute, hein. Mais en anglais, il y a trois mots pour correspondre au même mot latin, genus, ou genus si vous préférez, genus. Là où en français, nous n'en avons qu'un. En français, nous avons le mot genre pour correspondre à ce mot latin. Genus, generis, le mot genre revient. Mais en anglais, ils en ont trois. Ils ont d'une part le mot latin qui prononce genus, et c'est par exemple ce qu'ils emploient dans la classification scientifique, dans le genre, l'espèce, etc. Là, ils emploient le mot latin. Ils emploient le mot français, genre, pour parler des genres littéraires, des catégories. Et puis, ils emploient le mot gender pour le genre grammatical, masculin ou féminin. Et donc, pour remplacer le mot sexe, pour avoir un mot qui évoque ce que les humains dans leur liberté font d'eux-mêmes, ils ont choisi le mot gender. Avec aussi, une erreur sur la linguistique à la clé, à savoir la pensée que le genre grammatical correspond au sexe. Alors que nous savons bien en français, nous, que ce n'est pas le cas. Hein, mais comme ils ont le neutre, ils ne se sont pas vraiment rendus compte. En français, un mot féminin peut très bien servir pour un homme et réciproquement. Hein, quand on dit « c'est une brute », la plupart des gens penseront à un homme. Quand on dit « c'est un laideron », non masculin, la plupart des gens penseront à une femme. Mais voilà, le genre grammatical ne suit pas, il n'y a aucun lien de nécessité entre le genre grammatical et le sexe, ou même ce que la société fait du sexe dans son élaboration du donné naturel. Il n'y a pas de lien. Mais voilà, les féministes américaines ne se sont pas rendues compte, je crois, de ce fait linguistique et ont foncé dans une direction différente. Donc, on employait le mot « gender ». Alors, j'espérais quand même qu'en France, tu sais qu'on a le mot « genre » et avec la très belle expression de « genre humain ». Du coup, j'ai envie de chanter l'international. Et demain, l'international sera le genre humain. Là, le mot genre est employé avec une force et une réelle beauté. Alors, j'espérais qu'il y aurait une résistance à l'usage du mot genre. Mais apparemment, même pas. Voilà. Mais le fond de l'affaire, c'est l'idée qu'il n'y a pas seulement, ce que bien sûr nous reconnaissons, une élaboration sociale dont l'homme est responsable, les êtres humains sont responsables des données de la nature. C'est jamais la pure nature, bien sûr, dans la vie sociale humaine. Mais c'est, là n'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir si tout doit être purement et simplement rattaché à cet exercice de la liberté humaine, et si en particulier aucune norme ne peut valoir en dehors de ces choix que font les êtres humains, selon ce qui leur convient. C'est ça le vrai débat derrière ce problème de la liberté du genre et de l'idéologie du genre, et je pense, hein, de cette question du mariage auquel les homosexuels auraient accès. C'est cette idolâtrie de la liberté très sartrienne, mais qui s'est largement diffusé peu à peu dans une, non pas dans tout le corps social, mais dans une beaucoup plus grande partie du corps social qu'à l'époque de Sartre lui-même. Oui, vous voyez donc la situation. Alors, commentaire. Les difficultés philosophiquement perceptibles de ces conceptions de la liberté. Je pense que j'ai déjà fait allusion et que je ne vais pas développer beaucoup. C'est quand même le problème de cette antithèse. Est-ce que c'est responsable de prétendre que la liberté existe contre la nature? Quelle est sa réalité? D'ailleurs, Sartre parle de non-être. C'est le sens du titre même de son livre « L'être et le néant », son grand ouvrage. Le néant, c'est la liberté. Mais un néant qui a une efficacité, un néant qui creuse, c'est le ver dans la pomme, qui fait du vide dans la pomme. C'est une image à lui. Est-ce que c'est une façon responsable de traiter l'expérience humaine? Quand même, un certain nombre de philosophes ont du mal. Et cette difficulté, Sartre n'a pas pu l'éviter entièrement. Alors, une des grandes difficultés, c'est celle des degrés de liberté, des circonstances atténuantes, comme on dit. Avec une liberté absolue, à la manière de Sartre, comment peut-on concevoir une diversité de degrés, être plus ou moins libre? Il a nié la diversité des degrés. Il était conduit à le nier. Parce qu'on est libre ou on ne l'est pas. Et même l'esclave dans les chaînes, etc., il est libre de se disposer pour lui-même, et donc on ne peut pas dire qu'il est moins libre que le roi. La liberté, c'est un tel absolu qu'elle ne peut pas se graduer. Oui. Mais tous nos tribunaux en tiennent compte, ils ont agi avec un certain degré de liberté, mais bon. Comment rendre compte intellectuellement de ce fait d'expérience que la liberté a des conditionnements, qu'elle est entière ou qu'elle ne l'est pas. Cela, c'est une difficulté très très sérieuse des philosophes, parlant de la liberté. Et lorsqu'il, c'est la position courante, hein, habituelle, dit il y a un peu des deux, il y a un des éléments de nécessité qui se combine avec la liberté. Comment rendre compte de la possibilité même de la combinaison? Comment la liberté, si on la conçoit de la manière dont elle est conçue, comme une pure indétermination, peut-elle se composer avec des facteurs qui l'affecteraient, la diminueraient ou l'augmenteraient? Je pense qu'il n'y a pas de compte rendu qui soit donné. Et dans le cas même de Sartre, je le prends parce que je crois vraiment qu'il est exemplaire, dans le cas même de Sartre, il est intéressant de voir que ça aboutit au moins à certains moments à l'équivalent du fatalisme le plus bêtement stoïcien, si j'ose dire, où il s'agit de dire finalement oui à la nécessité. Parce qu'on se rend bien compte que aller contre la nature, mais toute la nature, mais c'est fou, ça ne veut rien dire, finalement. Alors, il a pu dire, en un sens, je choisis même d'être né. Et il a affirmé cela. J'ai encore une autre citation, je crois, très, très significative. J'ai des petits papiers. Voilà, puis c'est justement dans celui-là, je crois, que je cherche ma citation. Voilà, une des formules dans une autre pièce de théâtre. Alors, évidemment, c'est des pièces de théâtre, il fait jouer plusieurs personnages, mais on se rend bien compte qu'il y a des personnages qui représentent la vision des choses qui est la sienne. Et voilà à quoi il aboutit, que chacun veuille ce qu'il est contraint de faire. On aboutit. Que chacun veuille dire oui à la nécessité. Et dans son grand livre sur Flaubert, qui est un de ses grands livres, inachevé comme beaucoup de choses qu'il a fait, Flaubert se fait dans la mesure même où il est fait par la situation et les événements. Faire et en faisant se faire, c'était une formule qu'il aimait, hein, Sartre, elle vient d'un penseur du 19e, mais ici, il nous dit que on se fait dans la mesure même où les événements nous font. Flaubert se fait dans la mesure même où il est fait par la situation et par les événements. Voilà, me semble-t-il, ce qui montre l'impasse dans laquelle la pensée de type moderne et de type ultramoderne d'un Sartre aboutit. Alors maintenant, quelques réflexions sur ce que l'écriture nous permet de dire, et en particulier le passage que nous avons lu ensemble. Alors, premier point, qui devrait peut-être être évident, l'écriture dénonce l'illusion de la liberté absolue conçue comme indépendance. C'est l'illusion même que l'homme pécheur entretient, on pourrait, je plaide en tout cas dans ce sens, comprendre de cette façon la première tentation, Genèse 3. La connaissance du bien et du mal, je crois l'avoir montré dans Révélation des origines, hein, c'est la prétention à maîtriser le bien et le mal, à le déterminer soi-même, à inventer ses propres normes. C'est la prérogative divine. C'est Dieu qui seul connaît le bien et le mal, dans ce sens déterminant de connaître. C'est Dieu qui est le souverain. Alors, il ne le fait pas de façon capricieuse, mais rien au-dessus de lui. C'est de lui, à partir de lui, que le bien et le mal sont définis. C'est la prérogative divine. Et la tentation de Genèse 3, c'est pour l'homme de prétendre atteindre à cette prérogative, à connaître le bien et le mal, à être autonome au sens fort du terme, ce qui veut dire être sa propre loi. C'est là, pourrait-on dire, l'essence du péché suggérée par le troisième chapitre de la Genèse. Et l'Écriture dit, c'est le mensonge. Et on a souvent remarqué dans la structure même du récit de Genèse 3 comment ce mensonge éclate. Leurs yeux s'ouvrirent, oui, comme le serpent l'avait dit. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Dans la honte du regard de l'autre, dans la peur de la voix du Seigneur qui intervient. Voilà concrètement ce à quoi aboutit cette prétention à la souveraineté, à la liberté absolue. Alors, en un sens, oui, les yeux s'ouvrirent, et en un sens, le serpent, parce que le mensonge est toujours une singerie de la vérité et pas simplement le contraire de la vérité, en un sens, la parole du serpent s'accomplit, et Dieu peut même dire, l'homme est devenu comme l'un de nous connaissant le bien et le mal. Oui, il est devenu comme un Dieu, mais dans ce sens que il a rompu avec la détermination divine, qu'il prétend se donner le bien et le mal, mais en fait, il est le jouet du serpent, en fait. Il est le jouet de toutes les forces qui ne dominent pas. Voyez, c'est une pseudo-liberté. La liberté que les Juifs qui parlent à Jésus revendiquent. Nous sommes libres. Et Jésus leur dit, vous n'êtes pas réellement libres. Et la preuve, c'est que vous n'êtes pas capable de surmonter votre péché. Alors même que vous en auriez envie. Alors même que vous savez bien que c'est mal. Et que vous essayez de vous en dégager, vous n'y arrivez pas, vous êtes esclave du péché. Donc l'Écriture dénonce comme une illusion cette idée d'une liberté indépendance par laquelle l'homme déterminerait lui-même le bien et le mal, son bien et son mal. Mais alors, si ce n'est pas l'indépendance, c'est une dépendance. Qu'est-ce qui permet de parler de liberté par opposition à la dépendance où se trouvent toutes les créatures? Les étoiles qui suivent le chemin que le Seigneur leur a tracé, les animaux qui suivent l'instinct que le Seigneur a mis en eux, qu'est-ce qui permet de dire que l'homme est libre, avec la connotation d'une responsabilité, il doit rendre compte de ses actes à Dieu, par distinction de ces autres créatures, si toutes sont dans la dépendance. C'est là que je crois le détour du verset 35 est tout à fait déterminant. Il y a peut-être une allusion aussi au récit de la Genèse avec Ismaël et Isaac, mais là je passe par-dessus. Il me semble que Jésus donne le critère. Dans la maison antique, le fils et l'esclave dépendent aussi rigoureusement, totalement, l'un que l'autre du maître, le père. Ils en dépendent entièrement pour leur existence, pour toute leur subsistance et tout, c'est le maître qui décide, qui leur donne. Et ils en dépendent aussi au sens qu'ils doivent obéissance stricte. Ça ne fait pas de doute, le père, dans la maison antique, il a tout droit sur l'enfant. Donc, ce n'est pas un moindre degré de dépendance. Ce n'est pas que les uns soient plus dépendants que les autres qui font la différence entre ceux qui sont libres et ceux qui ne le sont pas. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'esclave, il n'est pas chez lui. L'esclave, il ne demeure pas toujours dans la maison. On l'a acheté un moment, il peut être revendu. Ce n'est pas son maître. Il n'est pas de cette maison. Il n'est pas chez lui. Alors que le fils, lui, il y demeure toujours. C'est sa maison, et le maître, c'est son père. Il en porte le nom, il en a reçu la nature. Lorsque c'est la loi du maître pour lui, ce n'est pas une loi simplement extérieure qui s'imposerait à lui du dehors et donc écraserait sa liberté. La loi du maître étant celle du père est une loi qui lui est intérieur, c'est un autre degré, c'est un autre, une autre modalité, peut-être même on pourrait dire une autre nature de dépendance, qui fait que cette dépendance-là est liberté, par opposition à la dépendance, la non-liberté de l'esclave. Voilà comment ce verset m'a été d'une grande illumination. J'essaie de vous le transmettre. La liberté dans le sens biblique, c'est une relation privilégiée à Dieu, le Maître dont nous dépendons entièrement, qui nous traite non pas simplement en esclaves, mais en fils et en filles. En ami, comme dit Jésus, l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous parle comme des amis, mais plus encore que des amis, ou en tout cas, c'est des fils et filles qui sont amis en même temps, que le Seigneur nous donne d'être, et c'est ainsi que se conçoit la liberté biblique. Et j'ajoute un dernier trait, c'est juste là le cas, hein, un dernier trait, c'est cette vision biblique qui nous permet de récupérer ce problème qui n'a pas solution chez les philosophes, des conditionnements de la liberté. À partir du moment où notre liberté est en quelque sorte fondée sur notre rapport privilégié à Dieu, et où c'est Dieu qui est le maître des événements, de tous ces conditionnements, alors nous pouvons avoir cette confiance qu'il les arrange, qu'il les maîtrise de telle sorte qu'ils ne viennent pas supprimer notre liberté. C'est le fait de pouvoir rapporter à Dieu aussi bien les éléments de contexte, tous les conditionnements, que la racine de la vraie liberté qui est la dépendance privilégiée de fils et de filles, c'est de pouvoir rapporter à Dieu l'un et l'autre qui permet de les faire coexister, d'avoir une combinaison des deux. Voilà ce que je vous suggère comme interprétation biblique de la liberté. Alors, c'est l'heure, donc. Je ne vais pas même laisser tout le temps pour les questions, parce que vraiment, je crois qu'il faut que nous en soyons d'accord. J'espère la fois prochaine essayer de toucher le sujet, un sujet que j'ai peu travaillé, il faudra que je travaille, qui est le sujet des institutions en matière morale. Là aussi, ça se lie à l'actualité. Et puis, j'espère ménager un moment pour éventuellement vos questions, vos remarques par rapport aux deux fois sur la liberté, puisqu'aujourd'hui c'est un peu raccourci. D'accord ?